France Info.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et les voici, les voilà, qui sort de la manche du magicien de l'actualité, non pas un lapin, non pas une colombe, non pas un kangourou, même si j'ai une très grande manche, mais bien quatre invités hein, affamés d'actualité. Et ce soir, Les Informés de France Info reçoivent Sophie Fay de Loves, bonsoir.
Bonsoir.
Également Fatima El Ouazdi, présidente fondatrice de Politiquelle, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Politiquelle, c'est vous travaillez sur une égalité homme-femme en politique,
ouais.
Là-dessus, voilà, vous étudiez notamment ça.
Ouais.
On reçoit également ce soir Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, bonsoir.
Bonsoir.
Et Laurent Bazin, bonsoir, vous êtes
bonsoir.
Éditorialiste à TV5 Monde. Et nous parlerons ce soir, bien sûr, de politique, du programme de Benoît Hamon. On parlera de social, on parlera des élections aux Pays-Bas. Mais juste avant ça, nous recevons Jean-Charles Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes ancien officier supérieur de gendarmerie, spécialiste du trafic d'armes. Et avec vous, nous allons parler de ce qui s'est passé à Grasse cet après-midi,
ouais.
Donc de cette fusillade. Dans un lycée hein, de Grasse, je rappelle les faits, un élève armé d'un fusil de chasse qui a agressé pour des motifs pour l'instant inconnus le proviseur et trois autres de ses camarades. Le bilan provisoire fait état de 4 blessés par plomb, tous hospitalisés, et de 4 autres victimes évacuées. Le suspect est donc âgé de 17 ans. Il a été retrouvé en possession de plusieurs armes et on ne connaît pas vraiment son motif. Un jeune homme fragile, fasciné par les armes. Voilà comment l'a décrit la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud. Allô, Belkacem. Alors, c'est vrai, Jean-Charles, Vincent, la question qu'on se pose ce soir, c'est par rapport à ces armes aujourd'hui. Comment aujourd'hui, à 17 ans, en dehors d'un fusil de chasse qui est facilement, qu'on peut facilement se procurer, comment on peut se procurer des autres armes qu'on a retrouvées sur lui?
Alors déjà, est-ce qu'on est certain que c'est un fusil de chasse? L'ombre persiste sur un fusil à pompe, ce qui n'est pas du tout la même catégorie. Quand on a 17 ans à l'heure actuelle, on a plusieurs possibilités. Tout d'abord, le vol. C'est la première des possibilités. Également, la possibilité d'avoir recours à un receleur qui aura fait voler ou voler lui-même une arme chez un particulier ou dans une armerie ou dans un club de tir et qui le revendra. Mais il faut un contact nécessaire. Et puis, l'autre possibilité, c'est de l'emprunter à quelqu'un qui en possède sans lui dire pourquoi on les prend.
D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont des pratiques répandues? Est-ce que c'est facile aujourd'hui, tout simplement, de se procurer des armes?
Non. Légalement, avec des autorisations, c'est possible, bien sûr, c'est prévu par la loi, dans tous les pays. Illégalement, ce n'est pas si facile que ça, bien heureusement. Il faut avoir un contact, quel qu'il soit un contact informel par un forum, par Internet, ou physique parce qu'on connaît quelqu'un ou qu'on cherche à force à connaître quelqu'un et qu'on a ce contact, pour avoir justement cette possibilité d'acheter une ou plusieurs armes.
Alors, on va en savoir plus, bien sûr, sur les motifs hein, aujourd'hui de ce jeune, donc de 17 ans. Alors, bien sûr, on a cherché dans son profil Facebook, on a vu un garçon qui était fasciné par ce qu'on appelle les mass murders, et notamment aux États-Unis le massacre de Columbine, ouais. On s'en souvient. Vous, alors avec votre société aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez pas seulement au trafic d'armes, mais vous réalisez également des audits auprès des établissements scolaires au niveau de leur sécurité.
Oui, alors ce sont deux sociétés.
Deux sociétés, bien sûr.
Arcalyse fait du conseil géopolitique pour les dirigeants publics et privés et pour les dirigeants publics, les rapports de force qui vont jusqu'à l'aspect sanglant, donc avec la problématique des armes et de leur trafic. L'autre, c'est Citipol, c'est pour accompagner les maires, effectivement.
Voilà.
Comprendre comment la sécurité des établissements scolaires peut être améliorée sans cesse.
Alors aujourd'hui, justement, est-ce que pour vous, il y a des failles dans ces établissements? Parce que là, on imagine un lycéen rentrer avec des armes sans que ça éveille le moindre soupçon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème de formation, il y a un problème de sécurité dans certains établissements?
Partout, il y a toujours un problème de sécurité, puisque le risque zéro, par définition, n'existera jamais dans un monde imparfait. Ça signifie que quelqu'un qui veut à tout prix entrer, commettre une action de masse comme un amok, puisque c'est le terme, y arrivera toujours. Le but est de réduire ses capacités, bien sûr. Après, il y a tout un ensemble d'entraînements qui sont possibles pour les personnels. Et on voit à Grasse que ça a très bien et très vite fonctionné. Donc c'est tout l'intérêt, justement, d'avoir ce genre de pratique, parce que dans ce cas, il y a zéro mort.
Bien
sûr. Actuel, il n'y a que des blessés. Alors bien sûr, les blessés, c'est grave. Mais pour autant, on ne déplore pas de décès. Donc c'est ce risque qu'il faut réduire à son strict minimum.
Et aujourd'hui, l'éducation nationale est ouverte véritablement à ça. On l'a vu en effet, hein, qu'il y avait aujourd'hui des stages après le 13 novembre, aujourd'hui pour éduquer à la manière de réagir. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut accentuer ce travail ?
Bien évidemment, mais pas que l'éducation nationale qui est très partie prenante dans ces dossiers, mais les maires, tout simplement, parce que ce sont les premiers magistrats des communes qui, eux, ont accès directement aux habitants, aux élèves et aux problématiques de leur territoire, car chaque territoire est différent. Donc, il y a tout un ensemble d'acteurs qui, eux, travaillent de plus en plus de concert pour améliorer ces dispositifs. Oui.
Alors Jean-Charles-Antoine, il y a une chose aussi, il y a l'alerte attentat qui a été déclenchée concernant le lycée, ce lycée à Grasse. Est-ce que, on a vu ensuite, il y a de nombreuses rumeurs qui ont circulé à partir du moment où il y a une alerte attentat qui est lancée, notamment sur les réseaux sociaux, et même ensuite des messages pour dire qu'il ne fallait pas relayer des rumeurs, tout ça c'est un petit peu perdu. Est-ce que il faut revoir ce protocole ? On se souvient déjà, cette alerte avait été déclenchée au moment des rumeurs d'un attentat au Halles, dans le quartier des Halles à Paris, ou bien sûr un attentat qui n'avait pas eu lieu. Est-ce qu'il faudrait revoir, d'après vous, les protocoles de cette alerte ?
C'est très complexe. Il n'y a pas de décision rapide à prendre. Effectivement, ce n'est pas un acte terroriste comme on l'entend. Pour autant, c'est un acte qui veut mettre en place une terreur. Les morts seraient les mêmes. Donc ça veut dire que même si, effectivement, ce n'était pas un acte terroriste, l'alerte attentat montre que ça a permis, dans un temps très court, d'empêcher, d'éviter ces morts. Alors, il y a toujours moyen d'affiner des dispositifs, mais cette alerte attentat permet au moins une réactivité immédiate.
Donc finalement, pour vous, c'est un bon outil ?
C'est un bon outil, à défaut d'un meilleur.
Oui, bien sûr, et c'est possible de l'améliorer.
Toujours, tout est possible.
Oui, d'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Charles-Antoine. Je rappelle, votre livre, vous avez écrit « Armes illégales, le trafic d'armes à feu en France » aux éditions du Plateau. Merci beaucoup d'être passé ce soir aux informés de France Info. Dans un instant, nous allons parler politique. On revient à la campagne présidentielle. L'info à 20h10, c'est Stéphane Milhomme.
L'affaire des costumes de François Fillon, le parquet national financier accorde un réquisitoire supplétif contre X pour trafic d'influence sur ses vêtements de marque du candidat de la droite. Le journal du dimanche révélait le 12 mars qu'un riche ami de François Fillon lui avait offert depuis 2012 des vêtements haut de gamme pour près de 48 500 euros, dont 35 000 réglés en espèces. Après les coups de feu dans un lycée de Grasse, le suspect de 17 ans est en garde à vue pour tentative d'assassinat au pluriel. À la mi-journée dans ce lycée Tocqueville, le suspect lourdement armé a blessé par des coups de feu 4 personnes dont le proviseur qui a tenté de le raisonner. Également 10 lycéens sont eux choqués ou blessés, mais la piste terroriste est écartée. L'explosion d'un colis piégé dans les bureaux du Fonds monétaire international de Paris. Des résidus de timbres grecs ont été retrouvés sur le courrier. Les enquêteurs ont également pu retrouver des traces d'un système de mise à feu électrique qui se déclenche à l'ouverture. L'explosion de ce courrier piégé a légèrement blessé ce midi une employée du FMI dans les locaux parisiens. Les dégâts sont assez limités. Après le Brexit, après la présidentielle américaine, les Pays-Bas ont dit stop à ce populisme d'un mauvais genre. La déclaration satisfaite aujourd'hui du Premier ministre Mark Rutte. Son parti de centre droit remporte les élections législatives d'hier. Le parti anti-européen et xénophobe de Geert Wilders progresse, lui, de 5 sièges sans toutefois accéder au pouvoir aux Pays-Bas.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Sophie Fay de l'Obs, Fatima El Ouazdi, présidente fondatrice de Politiquel, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France et Laurent Bazin, éditorialiste à TV5 Monde. Le prochain événement accueilli par la salle de Bercy à Accor Hôtel Arena, c'est le 32e Festival des Arts Martiaux. Et juste avant ça, dimanche, aura lieu au même endroit le meeting de Benoît Hamon. Alors peut-on lier les deux événements ? Benoît Hamon aura-t-il la patience du moine de Shaolin pour aller au bout de sa campagne ou l'habilité du ninja pour éviter les pièges de ses adversaires ? On ne sait pas, mais aujourd'hui, il l'a plutôt joué tranquille puisqu'il s'agissait de présenter son programme. Et oui, le socialiste n'a pas trop changé ses envies pour la France, mais il y a ajouté tout de même quelques propositions de ses adversaires de la primaire, et notamment celle d'Arnaud Montebourg, avec ses mesures, la priorité accordée au Made in France et aux petites et moyennes entreprises auxquelles 50% des marchés publics seront réservés. L'ex-ministre de l'économie, nouvelle muse de Benoît Hamon, oui, mais Arnaud Montebourg s'intéresse à tout autre chose pour l'instant. Arnaud Montebourg.
J'appelle au retrait de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour nous permettre d'être au deuxième tour. Nous en avons besoin, nous sommes devant le mur de l'histoire.
Qu'est-ce qui peut faire changer d'avis Jean-Luc Mélenchon ?
Son intelligence et sa vision, son extrême culture et sa vision de la société française et de ses risques.
Voilà Arnaud Montebourg ce matin sur France Inter. Alors Laurent Bazin, pourquoi Arnaud Montebourg revient encore sur cette histoire d'alliance Jean-Luc Mélenchon ? On pensait que c'était réglé.
Bon, d'abord Arnaud Montebourg revient.
Oui, c'est vrai.
Point 1. C'est-à-dire que Arnaud Montebourg, moi je ne l'avais pas entendu quasiment depuis la fin de la primaire. Il était reparti dans le privé, il était reparti faire son chemin. Mais on lui a fait une petite place dans le programme de Benoît Hamon, et même une place qui n'est pas neutre. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Made in France, la nationalisation temporaire que Benoît Hamon ne veut pas se refuser, la taxe sur les super-profits, tout ça, c'est du Montebourg. Donc, le deal, c'est, en échange, viens me mettre un coup de boutoir, parce que moi, j'y arrive plus avec Mélenchon, je sais plus quoi dire, et puis j'ai du mal à être audible. Donc, revoilà Arnaud Montebourg ce matin.
Il l'envoie.
Pourquoi Mélenchon ? Ben tout simplement parce qu'aujourd'hui, les sondages donnent les deux hommes pas dans un mouchoir de poche, enfin pas loin. On ne sait pas bien lequel des deux sera devant lors du premier tour de la présidentielle. Et que la seule chance de Benoît Hamon, c'est qu'il n'y ait pas Mélenchon. Mais moi, je ne pense pas que Mélenchon se retirera.
Non, mais bien sûr. En plus, là, ça semble... Justement, Sophie Fay, on l'a vu...
C'est un jeu de manche.
Arnaud Montebourg, donc, qui influence dans son programme. On voit qu'aujourd'hui, finalement, Benoît Hamon est quoi ? Il est dans une posture de rassembleur. Il essaye ? Dans le rassemblement ?
Il essaye, c'est le jeu logique de la primaire et de la pré-primaire. Bon, en même temps, franchement, il y en a pour tout le monde et donc on se demande ce qui restera à la fin. Regardez les promesses, c'est énorme, un budget du PIB en plus, 2% du PIB pour la défense, 3% du PIB pour la recherche, 40 000 profs, 100 milliards sur 5 ans pour la rénovation thermique des bâtiments. 10 milliards pour les banlieues, 35 milliards pour le revenu universel, le coup de pouce au SMIC, il y en a pour tout le monde.
Alors, et dans le même temps, on rabote la taxe robot qui devait ramener de l'argent, on garde le CICE et on réintègre les 3% de déficit budgétaire à la fin du quinquennat.
Exactement.
Ça va pas être facile comme
équation. Et on met un super profit sur les banques, donc c'est pas elles qui vont revenir de la City à Paris et qui vont permettre d'avoir plus de revenus, donc on voit pas très bien comment tout ça boucle.
Alors Henri Vernet, vous, justement, vous l'avez rencontré, Benoît Hamon, puisque vous avez publié dans Le Parisien aujourd'hui. En France,
après Macron, Hamon, vous voyez, un coup à gauche libéral, un coup à gauche.
Exactement. comment vous l'avez trouvé, Benoît Hamon ? Et est-ce que, en effet, comme dit Laurent Bazin, il revient ? Vous trouvez, vous, sur certaines de ces
phrases ? Non. Au contraire, il reste à gauche. La caractéristique de ce programme, c'est Sophie a pas tort en disant qu'il y en a un peu pour tout le monde, mais il y en a quand même un petit peu pour tout le monde à gauche. Ce programme est bien à gauche. Et c'est normal, parce que le positionnement aujourd'hui de Benoît Hamon, c'est en effet de rassembler, mais de rassembler une famille, qui est celle de la gauche, c'est-à-dire de mordre, en effet, le plus qu'il pourra sur Mélenchon. Chez Macron, il n'a pas grand-chose à espérer, et c'est là qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que, pour quelqu'un qui rassemble, il voit surtout pour l'instant sa famille se décomposer, c'est-à-dire la famille PS, elle est littéralement éclatée. Elle est divisée en deux. Donc,
et il n'a rien fait pour la rabibocher, pour être honnête.
Alors non, il a même un peu trop traîné. Clairement, il s'est d'abord tourné vers des écolos qui ne pèsent absolument rien, ou en tout cas pas grand-chose en termes électoraux. Donc il y a manifestement consacré trop de temps et fait trop de concessions à un mouvement qui ne lui apportera pas énormément de voix. Et en effet, trop la danse du ventre envers un Mélenchon dont on sait qu'il ira jusqu'au bout. Bon, mais il essaie d'occuper un espace, en gros, qui est celui d'une gauche solidaire. Il y a, Macron, qui est sur une gauche, disons, plus novatrice, qui est plutôt la gauche des libertés individuelles. Alors, c'est aussi une tradition de la gauche et d'une partie de la droite, mais c'est pas celle-là. C'est vrai que celle que les Français, en tout cas ceux qui ont voté à la primaire de la gauche en janvier, eh bien, ont exprimé qu'ils voulaient une gauche qui revienne à gauche. Et ça, eh bien, avec ce programme, Benoît Hamon, clairement, elle est contente. L'attaque sur les super-profits, moi, ça me rappelle aussi un certain Hollande, celui du Bourget, discours du Bourget de 2012.
Écrit par la plume d'Arnaud Montebourg à l'époque.
Fatima Loisdi, justement, vous, ce programme de Benoît Hamon, on le connaissait un petit peu, parce que forcément, quand on a suivi les primaires, pour vous, il y a eu des changements, il y a une volonté aujourd'hui de rassembler, de prendre, il l'a dit lui-même, il a écouté finalement ses concurrents de la primaire.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a quand même maintenu le revenu universel dans son programme, alors que, in fine, ce n'était pas ce qu'il recherchait à garder un peu dans son programme toutes ces idées-là, toutes ces idées clés qui ont fait que les électeurs de gauche l'ont choisi à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Il a juste recentré, il a dit que finalement le revenu universel, ce serait un revenu universel de subsistance, d'existence pour les personnes, ce ne serait pas un revenu universel pour tous et pour tous les Français.
Dans un premier temps,
il a dit qu'il le ferait de façon graduelle. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que vraiment le revenu universel, pour moi, c'est une proposition innovatrice qui permet aussi d'améliorer les libertés individuelles dans le sens où on peut disposer de notre temps comme on l'entend. Et je trouve que finalement, il a quand même réussi à garder ses idées qui sont clés à son projet, ses idées de gauche, alors que c'est ce qui divisait, ce qui faisait que beaucoup de ténors socialistes ont refusé de le soutenir publiquement. Je pense à Julien Méadel, par exemple, sur ces idées clés qui sont compliquées.
Juste une précision. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis liberté individuelle, c'est que le revenu universel, il vous vient de l'État. Tandis que la vision de Macron, elle est que dans un monde du travail qui est de plus en plus éclaté, qui est de plus en plus, comment dire, livré à l'État, n'y peut plus grand chose. Et donc, ce sont vos propres ressources individuelles. Il veut libérer tout ça. Donc voilà, on a quand même deux visions qui sont
différentes. Est-ce que ça parle finalement cette idée de Benoît Hamon de société post-travail? Est-ce que ça parle à tout le monde?
Mais ça a beaucoup parlé, ça a parlé à tous ceux qui sont allés voter pour lui à la primaire, et ça parlait beaucoup à d'autres gens. Au-delà de ça, c'était le seul qui nous donnait une vision de long terme intéressante, qui nous faisait réfléchir sur la société, sur la manière dont on travaillait. Et moi, je trouve qu'il a un peu noyé ça dans un fatras de mesures finalement assez classique.
Non, plus politique. Vous pensez qu'il a fait ça d'une manière plus politique pour essayer d'étendre?
Non, c'est pas plus. Il s'est un peu dénaturé, comme souvent entre les deux tours après la primaire, quoi, quand on essaie de rassembler tout le monde. Mais il s'est dénaturé alors qu'il était très original, alors qu'il n'était pas obligé. Il pouvait tout concentrer sur le revenu universel et ne pas promettre en tout sens et pouvoir dire que il allait vraiment proposer une réforme européenne, parce qu'on peut pas proposer une réforme des traités européens si on commence par dire aux Allemands on les respecte pas, on respecte aucune règle et on s'assoit dessus. Donc il aurait pu tenter quelque chose d'un peu plus
il dit beaucoup moins ça que Mélenchon,
plus original.
Il dit beaucoup moins ça que
Mélenchon. Mais Mélenchon, il faut qu'il explique comment il peut ne pas sortir de l'euro avec ce qu'il propose.
Laurent Bazin, juste justement sur cette idée de politique, à un moment il faut élargir à sa base
pour il est en train de faire une synthèse à la gauche du Parti Socialiste, Benoît Hamon. C'est ça qu'il a fait aujourd'hui. C'est-à-dire, jusque-là, il a fait du Benoît Hamon, c'est-à-dire j'ai lu les philosophes, les sociologues français, belges, des gens très intelligents qui ont pensé le monde d'après. Voilà, ça a fonctionné sur le public de la primaire, de ce que vous appelez la Belle Alliance Populaire. On avait presque oublié que ça s'appelait comme ça, tellement c'est pas au bout du compte une Belle Alliance. Tellement il a du mal à faire l'Alliance. Et puis, au bout du compte, il se retrouve effectivement à picorer dans les programmes des autres pour ramener Vincent Peignon avec lui, par exemple, c'est les 3%, pour ramener Arnaud Montebourg avec lui parce qu'il en a besoin pour mettre un peu de pression sur Mélenchon et aller grappiller des voix. Voilà. Là, il a réalisé Benoît Hamon qu'en vérité, tout seul, il n'y arriverait pas. Un homme, un peuple, ça suffira pas pour Benoît Hamon.
On va continuer à en parler et on va également parler du déplacement d'Emmanuel Macron à Berlin, puisqu'il voyage. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Le comportement du proviseur de Grasse a été héroïque. La déclaration de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, après l'attaque d'un jeune de 17 ans au lycée Tocqueville de Grasse. C'était à la mi-journée et le responsable a réussi à le raisonner. Lourdement armé, ce tireur a eu le temps de blesser 4 personnes, dont le proviseur. Une dizaine de lycéens sont soit choqués, soit blessés. Christine Lagarde, patronne du FMI, condamne de son côté un acte lâche. À Paris, en fin de matinée, un courrier piégé a été envoyé au bureau parisien du Fonds monétaire international. Une employée est légèrement brûlée, des résidus de timbres grecs ont été retrouvés et des traces d'un système de mise à feu électrique se déclenchant à l'ouverture. Dans ce contexte, François Hollande exclut toute levée de l'état d'urgence avant le 15 juillet. Le chef de l'État réagit cet après-midi. Nous restons extrêmement vigilants, dit-il. Cela ne veut pas dire que c'est un état permanent. La remise en route dès ce soir de la plateforme de covoiturage Hitch. Ses concepteurs ont été condamnés il y a quelques jours, notamment pour exercice illégal du métier de taxi. Désormais, Hitch sera dans un premier temps une plateforme de VTC classique. Et puis parce que son film La Belle et la Bête est censuré en Malaisie, la dernière super production comporte un moment gay, Disney fait appel de la décision. Le géant américain veut laisser le temps à ce pays à majorité musulmane de revenir sur sa décision. Aux États-Unis, des critiques ont vu cet extrait et minimise son importance.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la gauche et vous le disiez tout à l'heure, Henri Vernet, on a vu cette semaine Benoît Hamon prendre un petit coup, alors je ne sais pas si un petit coup moral on peut dire ça, avec quand même la déclaration de Manuel Valls de dire qu'il ne parrainerait pas non plus Emmanuel Macron, mais on sent bien que
Il y a une vraie attirance et puis voilà, moi je serais prêt à parier que c'est une question de jours et puis que tout cela viendra, je veux dire ce processus va aboutir.
Pour vous, l'inéluctable?
Il me paraît aujourd'hui inéluctable. Oui, mais oui, bien sûr, parce que qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette présidence? C'est que, enfin, je vois mal le PS tel qu'il est en tout cas aujourd'hui y survivre. La grande clarification qui en réalité est en germe depuis des années finalement, en quelque sorte, le fameux cadavre à la renverse hein, qu'avait constaté BHH, je crois que c'était déjà en 2007, il a été maintenu en survie artificielle par la victoire de Hollande en 2012. Mais maintenant, après le congrès à ciel ouvert qu'on a eu pendant 5 ans, il est temps de clarifier. Donc on voit bien que il y a Valls d'un côté qui avance avec sa maison des progressistes et derrière dans votre journal. Sophie Fay sur quand il est arrivé ce projet là d'un côté hein, donc et la logique c'est de le faire avec Macron, voilà, donc c'est Valls Macron pas ensemble, on les voit mal faire ça de concert, mais en tout cas en gros c'est ce pôle là et puis donc un PS qui serait beaucoup plus alors Hamon Mélenchon
justement voilà. Alors pendant ce temps là celui qui marche sur l'eau hein, qui n'hésite pas à déclarer laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu hein, et pour ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire Emmanuel Macron en fait hein, est allé faire une petite balade à Berlin. Et pourquoi il y est allé? Pour voir Angela Merkel, mais surtout il a fait une déclaration après pour dire que non, ce n'était pas du tout de l'allégeance Emmanuel Macron.
Ça n'est en aucun cas un adoubement. Vous savez, dans une campagne présidentielle française, le seul adoubement qui existe, c'est celui du peuple. N'oubliez jamais que lorsqu'on élit un président, on élit aussi le représentant de la France au Conseil européen. Et notre premier partenaire, notre partenaire historique, c'est l'Allemagne. Et donc, à ce titre, il était pour moi absolument indispensable, en effet, de pouvoir avoir cet échange et de préparer la suite de manière efficace.
Ouais, Emmanuel Macron, aujourd'hui à Berlin, Fatima Loisdi après le Liban, la Grande-Bretagne, la rencontre avec Theresa May, hein, Premier ministre britannique, maintenant Berlin, rencontre avec Angela Merkel. C'est important ces déplacements, ça, dans une campagne, ça donne une posture internationale?
Je me souviens d'Alain Juppé qui a dit dans son dernier discours pendant cette présidentielle que Emmanuel Macron, finalement, c'était quelqu'un d'assez inexpérimenté en politique, qui n'avait pas cette carrure présidentielle que François Fillon aurait parce qu'il a été 5 ans Premier ministre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de se donner cette carrure en courant les réunions, en courant les pays étrangers. C'est la deuxième fois qu'il va à Berlin depuis le début de l'année. Il est parti en janvier et là, il y retourne aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant pour lui de se donner cette carrure. Certes, pour moi, c'est totalement, il se fait adouber par Angela Merkel, tout comme François Fillon. Quand il est parti voir Angela Merkel, il était très très content. Il l'affichait partout sur les réseaux sociaux. On a entendu parler pendant 2-3 jours. Et là, c'est typiquement pareil. C'est quasiment un passage obligé pour le prochain président de la République d'aller voir Angela Merkel.
Sauf s'il est de gauche.
Sophie Fay, pour vous aujourd'hui ce passage en Allemagne, alors on a vu François Fillon qui disait le cœur d'Angela Merkel, on sait très bien pour qui il bat, en gros c'était pour lui. Là on a l'impression que finalement il est peut-être volage Angela Merkel.
En réalité, quand l'équipe de François Fillon est allée en Allemagne, ils ont eu énormément de questions sur Marine Le Pen. Ce qui obsède les Allemands, c'est le risque d'élection de Marine
pas
Le Pen.
Pas que les Allemands, tous les pays étrangers, en tout cas les
Allemands beaucoup. Et le fait qu'il aille à Berlin et qu'il aille 2 fois à Berlin, je trouve ça très intéressant parce que on ne changera pas l'Europe, on ne modifiera pas les règles, on n'arrivera à rien, on n'arrivera pas à une politique économique commune sans le soutien de l'opinion publique allemande. Et Madame Merkel, elle aura des élections, ce sera peut-être plus elle qui sera là ou peut-être qu'elle sera toujours là, mais de toute façon, au-delà d'elle, c'est l'opinion publique allemande qu'il faut convaincre et c'est pas facile, c'est une opinion publique vieillissante qui est très attachée à la force de la monnaie, qui est très attachée à son épargne et qui n'a pas du tout envie de financer des déficits ou le confort des Français, d'Italiens, d'Espagnols et donc il faut montrer qu'on a quelque chose à leur dire aussi et qu'ils le fassent, c'est peut-être une bonne manière de préparer l'avenir, au-delà de l'image.
Fatima Loisdi.
Ce que je trouve intéressant, c'est que Macron parle beaucoup aux Allemands. Il semble être plus ou moins apprécié. Il soutient la politique d'accueil des réfugiés, ce qu'aucun autre candidat ne fait, à part Benoît Hamon, je pense. Et du coup, je pense qu'il a cet attrait-là, de la jeunesse politique, etc., qui plaît aux Allemands. Et je pense qu'il est relativement bien apprécié. Et donc, c'est bien qu'il aille faire campagne là-bas.
C'est bien. Il sera donc élu en Allemagne. Raison. Sauf que c'est les Français qui vont voter. C'est dans 6 semaines. Hein.
C'est ça, exactement. Voilà. 23 avril.
Donc, normalement, 5 semaines. 5 semaines avant une élection, on parle à ses électeurs.
Ouais. Bon.
Moi, je veux bien qu'on parle à ses électeurs en allant voir Angela Merkel. Je ne suis pas absolument convaincu de l'efficacité de ce voyage, pour être très honnête. Point 1. Point 2. L'Allemagne, c'est très important. Rien ne se fera sans l'Allemagne. Même Benoît Hamon en a convenu, puisqu'il a réintégré les 3% dans l'idée de la fin du quinquennat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne fera rien, effectivement, sans l'Allemagne, quoi qu'il arrive, ou sans discuter avec l'Allemagne, quoi qu'il arrive. François Hollande lui-même, son premier voyage, après avoir pris la flotte sur les Champs-Élysées, ça a été de prendre la foudre, et puis ensuite de manger des asperges avec Angela Merkel à Berlin. Donc oui, pour un président élu. Pour un candidat, le message qu'il envoie, c'est simplement... C'est bon, c'est dans un fauteuil, je suis déjà en train de préparer la suite. Je pense que c'est un peu tôt.
Ouais, mais c'est pour ça que, par exemple, qu'il a aussi voulu voir Theresa May avant. C'était important.
Oui, mais de ce moment, si vous voulez, il est classique ce moment de passage par l'étranger dans une campagne présidentielle. François Mitterrand l'avait fait il y a très longtemps. Ségolène Royal avait imité François Mitterrand quand elle avait été en Chine de la même manière. Emmanuel Macron fait ça. Il a un tropisme. Il est beaucoup plus tourné vers l'étranger, en vérité, Emmanuel Macron, que nos autres politiques français. Donc ça, c'est lui aussi d'une certaine manière. Mais ça vient plutôt dans une campagne. Moi, je pense que c'est un peu tard, surtout je pense que c'est le moment de parler aux Français, et directement aux Français, ou un peu tôt, parce que c'est quand il sera élu président, s'il l'est, ce qui n'est pas fait,
bien sûr,
qu'il sera le temps venu de parler avec les Allemands et de plaire aux Allemands.
Allez, dans un instant, dans les informés de France Info, justement, on parlera de cette Europe qui a eu les yeux rivés sur les Pays-Bas. On parlera également de débats, de social. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est normal, c'est jeudi, pourquoi pas le jeudi. Et voilà la suite des informés de France Info dans quelques minutes.
Attention, attention. Corum est un placement immobilier, donc un placement à long terme qui n'est pas liquide immédiatement. Et évidemment, capital et revenus ne sont pas garantis. Toute la documentation est sur corum.fr. Voilà, c'est dit. Sinon, c'est quand même l'opportunité de placer votre argent dans l'immobilier à partir de 1060 euros tout frais inclus, de toucher vos revenus tous les mois et d'investir dans toute la zone euro. Autre chose, la petite voix ?
Rien, tout a été dit.
Bon, j'aime mieux ça.
Corum, l'immobilier sans l'immobilité. Corum.fr.
Corum, visa SCPI délivré par l'AMF, géré par Corum Asset Management.
Je pensais à quelque chose.
Ah ouais, c'est quoi ?
Si c'est les jours c'est maintenant chez Citroën, c'est maintenant, c'est pas après. Du coup, maintenant, c'est déjà passé. Mais on peut pas passer à côté de 2400 euros de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C1 ultra personnalisable. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant et pas après.
Tu es dépassé.
Pendant les jours c'est maintenant chez Citroën, bénéficiez de 2400 euros de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C1. C'est maintenant, c'est pas après. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën.
Offre valable jusqu'au 31 mars. Détails sur citroën.fr.
France Info Météo avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Une perturbation pour les régions du Nord demain. Elle apportera un ciel très nuageux jusqu'aux Charentes, à la région parisienne, au centre et au nord de l'Alsace, avec quelques gouttes au nord de la Seine le matin et puis sur le nord-est l'après-midi. En matinée, on retrouvera déjà des éclaircies le long de la Manche. Elles gagneront la Bretagne, l'Île-de-France, la frontière belge l'après-midi. Le vent sera sensible près des côtes. Du sud-ouest vers le sud de l'Alsace et la Méditerranée, encore du soleil. Des nuages bas tout de même sur la côte aquitaine. Parfois un peu de grisaille aussi sur les côtes méditerranéennes. Il fera 3 à 10 degrés le matin et puis l'après-midi, seulement 10 à 14 degrés sous les nuages, 11 à Lille, 13 à Paris et Nancy, 14 à Nantes, mais encore 18 degrés à Strasbourg, Bordeaux, 22 à Toulouse, 23 degrés à Grenoble et à Nîmes.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Julie Simul, bonsoir.
Bonsoir, l'auteur de la fusillade dans un lycée de Grasse ce midi et ce soir en garde à vue. Une fusillade qui a fait une dizaine de blessés d'après la procureure de Grasse. Et le profil du jeune homme se précise ce soir. C'est un lycéen de 16 ans, élève lui-même au lycée Tocqueville. Un garçon fragile et apparemment fasciné par les armes. C'est donc lui qui est entré dans l'enceinte de son établissement lourdement armé et qui a ouvert le feu, Justine Leclerc.
La procureure de la République de Grasse a dès le début de son point presse écarté tout lien avec une entreprise terroriste. L'élève de première aurait agi à cause de mauvaises relations avec d'autres lycéens. Ce midi, il a pénétré dans son lycée lourdement armé d'un fusil à pompe chargé de cartouches de plomb, de deux armes de poing, d'une grenade et visiblement d'un engin explosif artisanal. L'adolescent de 16 ans est entré dans une classe à tirer. Des élèves sont alors partis chercher le proviseur qui s'est interposé et a été blessé à l'épaule. L'adolescent aurait dit au chef de l'établissement scolaire qu'il ne lui en voulait pas. Quatre personnes sont hospitalisées, blessées au ventre, à l'épaule et choquées, pas de blessure vitale. Le lycéen interpellé à 13h05 s'est laissé faire. La procureure n'exclut pas la complicité d'autres personnes qui auraient pu aider l'adolescent, par exemple, à s'armer lourdement. L'adolescent de 16 ans n'était pas connu des services de police ni de justice. Il est en garde à vue pour tentative d'assassinat. Justine Leclerc, France Bleu Azur pour France Info.
Le parquet antiterroriste enquête dans une autre affaire aujourd'hui. L'explosion d'un colis piégé ce matin au siège parisien du FMI dans le 16e arrondissement. Une employée a été légèrement blessée. Une attaque qualifiée d'attentat par François Hollande. Une attaque qui n'a toujours pas été revendiquée, mais des résidus de timbres grecs ont été retrouvés sur l'enveloppe. D'après la police à Athènes ce soir, des anarchistes grecs seraient peut-être derrière cette attaque. La présidentielle et de nouveaux ennuis judiciaires pour François Fillon. Le parquet national financier étend ce soir son enquête au costume offert aux candidats de la droite. Une révélation qui a fait du bruit le week-end dernier. Un ami proche de François Fillon lui aurait offert pour plus de 48 000 euros de costumes de luxe dans une boutique parisienne. Le parquet décide donc ce soir d'enquêter sur les conditions dans lesquelles ces costumes lui ont été offerts. Et puis dans une demi-heure, coup d'envoi du match de l'OL contre l'AS Roma. Ce sont les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. Les Lyonnais l'avaient emporté 4-2 au match aller. 20h33 sur France Info. On retrouve Jean-Mathieu Pernin pour la suite des informés.
20h21, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et une deuxième tournée d'actualité se profile et j'en soif ce soir. Et les informés de France Info reçoivent Sophie Fay de l'Obs, Fatima El-Wazdi, présidente fondatrice de Politiquelle, également Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France et Laurent Bazin, éditorialiste à TV5 Monde. Juste avant de passer à notre prochain débat, Henri Vernet, on parlait à l'instant d'Emmanuel Macron à Berlin. Il y a eu, bon, petite chose, une petite secousse à droite, toute petite, hein, vraiment, à propos de ce sénateur apparenté Les Républicains qui, lui, a choisi de soutenir Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que c'est anecdotique ou ça peut se généraliser ?
Bon, en tout cas, c'est quand même, comme vous dites, une toute petite secousse. Hein, parce que pour deux raisons. D'abord, la première, alors ce serait très symbolique si c'était vraiment par conviction, ce qui est peut-être le cas, mais je veux dire, on n'en sait rien. Est-ce que ça reflète l'état de désarroi dans lequel se trouvent Les Républicains aujourd'hui ? Et notamment, comme lui, hein, lui, c'est un jupéiste, assez jeune d'ailleurs, pour être un sénateur, ce qui est assez intéressant. Mais je veux dire, d'abord, sénateur, ça veut quand même dire qu'il a le confort des années devant lui. Hein, et on ne va pas lui retirer son investiture là en juin prochain. Donc, il a le temps de voir venir, en quelque sorte. Et puis, est-ce qu'il y a de l'opportunisme politique ou réellement des convictions ? Bon, ensuite, un mini-séisme, parce que ce n'est pas lui faire injure que de dire que ce n'est pas non plus une star de la politique. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, tout récemment, j'ai discuté, alors là, pour le coup, avec un jeune jupéiste également, mais qui, lui, est en phase de conquête, hein, puisqu'il est candidat dans une des circonscriptions, et qui disait qu'en effet, en tant que jupéiste aujourd'hui, c'est-à-dire représentant d'une droite modérée, d'une droite de gouvernement, c'est amusant d'entendre ça parce que c'est comme la gauche de gouvernement, eh bien aujourd'hui on ne se reconnaît plus du tout dans ce qu'est devenu la droite de Fillon, qui à la base était elle aussi une droite de gouvernement, qui aujourd'hui distille, est une droite populiste, presque par moments sectaire dans ses comportements,
radicalisée
absolument. Alors, bon, pour une partie de sa base, hein, pas pour les 20% d'électeurs qui se disent encore prêts à voter pour lui, mais enfin, disons qu'eux ne se reconnaissent plus dedans. Alors quand on leur demande à ceux là, mais pourquoi vous ne rejoignez pas Macron pour le coup, puisqu'ils auraient davantage un profil et par conviction, eh bien là il me dit non, il reste quand même chez Macron des marqueurs qui ne sont pas d'une vraie révolution libérale, notamment sur la retraite, sur des choses, sur des éléments comme cela.
Et puis l'investiture, parce que vous avez dit vous-même qu'il était candidat, qu'il avait besoin de l'investiture.
Exactement.
Il rejoint Macron, c'est
un peu compliqué. Macron ne pourra pas les donner à tous les
choses. Juste une petite chose pour clore ce chapitre présidentiel. Lundi, il va y avoir un moment unique dans cette campagne, ça sera la première fois en France où les candidats, alors faisons plus de 10%, dans les sondages, parce que les candidats ne regardent pas les sondages, mais ils s'y fient quand même. Donc vont s'affronter sur TF1. Ça sera le premier débat avec 420 supporters autour d'eux, chauffés à blanc. 2h20, 3 séquences thématiques de 50 minutes chacune. Sophie Fay, pour vous, est-ce que c'est important ce débat ?
Ah, très important. Quand on voit le nombre d'indécis qui n'a jamais été aussi élevé, c'est effectivement complètement décisif. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont des points de recoupement dans les programmes. Donc on va voir qui est plus proche de qui se met contre qui, quelles sont les alliances possibles. Et puis, on aura peut-être une indication de ce qui va se passer à un moment donné entre les deux tours, ou peut-être même le soir du premier tour. C'est-à-dire que si jamais Marine Le Pen est en tête, qui se désiste et appelle au Front Républicain, parce que je crois que du côté de Fillon, par exemple, c'est pas du tout.
C'est ça, oui, il n'en a
pas du tout
parlé,
clair.
Exactement.
Donc, ça va être très intéressant.
Fatima El-Wazdi, vous allez le regarder vous lundi soir.
Oui, je vais regarder.
Et vous êtes, est-ce que vous êtes gourmande de ça, de ce débat ? On a vu les Français qui avaient redécouvert, parce que les débats au moment des primaires, de droite comme de gauche. Pour vous, c'est un débat qui s'imposait ?
C'est un débat qui est important, je pense, pour deux candidats. François Fillon, déjà qui doit rattraper son retard derrière Macron. Il est dans le dernier sondage qui vient de sortir de l'IFOP à 7,5 points de retard sur Macron. Donc il y a deux personnes qui jouent vraiment leur place. Il y a Fillon qui joue sa place et Hamon qui joue sa place. Comment reprendre des électeurs de Mélenchon d'un côté et comment Fillon peut rattraper un peu sa base et se consolider pour être au deuxième tour?
On a l'impression dans une émission de sport en fait.
C'est clairement ça. Et puis c'est aussi affirmer sa place politique, son placement politique. Et moi je pense surtout, par exemple, on a vu Bruno Le Maire dans les débats de la primaire de la droite et du centre qui voulait être un peu le Obama français, qui s'est complètement vautré. Oui. Et je ne sais pas si Emmanuel Macron il va connaître la même situation et s'il va être suffisamment prêt au débat, parce qu'on le voit courir à l'étranger, etc. Est-ce qu'il sera suffisamment prêt pour affronter les autres à ce débat-là et s'affirmer comme présidentiable et comme numéro 2 au premier tour?
Justement, Laurent Bazin, c'est marrant cette soif de débat d'un coup des Français. On a l'impression qu'ils ont redécouvert.
Non, mais les Français ont toujours eu soif de débat. Moi, je me souviens, j'animais des débats à la télévision. Oui. Ça n'a pas forcément toujours fait des scores d'audimat extraordinaires. Ça dépendait du débat. Mais les gens, en tout cas, me disaient « Formidable, on discute, c'est génial. » Les Français adorent ça. Les discussions. Simplement, moi, ce qui m'intéressera dans le débat de lundi soir, c'est de savoir sur qui la meute va se jeter. Parce que il y a toujours un effet masse dans un débat. Il y a toujours quelqu'un qui, en vérité, se prend la meute au basque. Et puis, il y a celui qui arrive à y échapper ou celui qui arrive à courir plus vite. Bon, dans les débats de la droite, François Fillon avait nettement couru plus vite. Et en même temps, il avait affronté plutôt la meute des journalistes, d'ailleurs, que la meute des candidats, lui. Dans les débats de gauche, Manuel Valls avait raté le coche. Mais on voyait bien que la meute était plutôt sur lui. C'est-à-dire celui qui avait gouverné, celui qui portait la force de gouvernement. Et ça lui avait fait du mal. Donc ce sera intéressant de voir si, par exemple, la meute est plutôt sur Macron, ce qui serait logique. Il est le favori, c'est lui, l'homme à battre, logiquement, sur Marine Le Pen. Qui quand même est celle qui inquiète le plus, notamment nos confrères étrangers, mais les étrangers d'une manière générale, enfin ceux qui regardent ce qui se passe en France aujourd'hui, ou si au contraire, ce sera beaucoup plus réparti et auquel cas on pourra discerner les points de fragilité.
Alors,
moi, j'attends Benoît Hamon particulièrement.
Et une chose, Henri Vernet, pour terminer là-dessus, sur ce chapitre, on sait Nicolas Dupont-Aignan qui annonce ses 500 signatures, lui, s'est plaint de ne pas être invité parce que, soi-disant, il ne ferait pas 10%. C'est vrai qu'on est basé, on se base sur des sondages. Finalement, est-ce qu'il a raison aujourd'hui? Parce qu'il n'y aura ni Nathalie Arthaud, Asselineau.
Sur un plan théorique, oui, bien sûr qu'il a raison. Dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'en effet, tous les candidats aient accès au débat. Maintenant, il faut aussi être pragmatique et réaliste. D'abord, les fameux débats américains, vous avez raison Laurent de rappeler l'importance des débats, c'est exactement pareil, ils se fondent aussi sur les sondages, ce qui fait qu'il n'y a que deux candidats qui apparaissent réellement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que deux candidats pour l'élection américaine. Bon, et donc ça c'est du pragmatisme. Et puis justement, tout ce qu'on vient de dire là souligne à quel point ce débat est essentiel, est attendu, enfin cette série de débats, parce que dans cette campagne, on a parlé depuis un mois, on le sait assez, de tout sauf de programme. Donc on le fera peut-être plus clairement avec cinq candidats qui se détachent quand même, hein, c'est une réalité, cela. Et voilà, et ce sera pour le téléspectateur, qui est aussi un électeur, ce sera important. Je suis totalement d'accord aussi que c'est pour Hamon que c'est le plus important, parce que il est celui qui a pâti le plus de cette absence donc de débat, la focalisation sur les affaires, l'argent de l'un, de l'autre, etc. Lui, du coup, on ne connaît pas son programme, c'est le plus discret. Finalement, on le connaît maintenant, grâce aux Parisiens, grâce à sa conférence de presse ce matin, mais quand même, il a un retard là-dessus, et lui, il a vraiment tout un espace à conquérir ou à reconquérir, donc pour lui, c'est en effet crucial.
Allez, dans un instant, nous allons partir chez nos voisins aux Pays-Bas, voir ce qu'il se passe maintenant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
L'explosion d'un colis piégé dans les bureaux du Fonds monétaire international à Paris à la mi-journée. D'après la police à Athènes ce soir, des anarchistes grecs seraient derrière cette attaque. Des résidus de timbres grecs ont été retrouvés sur le courrier. L'explosion de ce colis piégé a légèrement blessé une employée de ce bureau parisien du FMI. Selon la procureure de Grasse, il n'y a aucun lien avec une entreprise terroriste. À la mi-journée au lycée Tocqueville, un jeune de 17 ans, lourdement armé, a blessé par des coups de feu 4 personnes, dont le proviseur qui a tenté de le raisonner. 10 lycéens sont soit choqués, soit blessés. Le suspect de 17 ans est depuis en garde à vue pour tentative d'assassinat au pluriel. La traîne dans les sondages. Benoît Hamon détaille un programme recentré et rassembleur. Le socialiste prévoit la sortie du nucléaire en 2025, l'arrêt du diesel, une taxe sur les super-profits des banques, mais aussi un coup de pouce au pouvoir d'achat des plus modestes. Benoît Hamon détaillera ces mesures en meeting. Ce sera dimanche à Bercy. Et puis un avant-goût de vacances et de dépaysement, c'est la promesse du Salon du Tourisme qui ouvre aujourd'hui ses portes à Paris, porte de Versailles, sous de meilleurs auspices que ces dernières années, marquées par par les attentats. Paris et sa région ont perdu par exemple l'an dernier 1 500 000 touristes. Des pays tenteront aussi jusqu'à dimanche de reconquérir leur clientèle. En tête, l'Égypte et la Tunisie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous allons maintenant voir ce qui se passe un petit peu chez nos voisins européens, puisque 24 heures plus tard, on peut le dire, après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, eh bien rien en fait, hein. Mais jusqu'à quand? Alors je sais, ça fait un peu bande-annonce hollywoodienne, mais bon, voilà, on vend la chose, hein. Mais la défaite hier du parti populiste de Geert Wilders aux législatives néerlandaises a peut-être marqué un coup d'arrêt à cette vague que certains imaginaient ravageuse. Arrivé deuxième avec moins de sièges que prévu, même s'il y en a un certain, le leader du PVV a bien mal entamé le printemps des patriotes, hein, qu'il appelait de ses voeux à suivre les élections en France et en Allemagne à l'automne. La défaite de Geert Wilders est-elle un croche-patte au populisme ou un simple accident, vu que ces thèmes sont omniprésents dans les pays européens? Eh bien, pour le porte-parole de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, c'est une bonne nouvelle.
Le président Juncker a félicité le Premier ministre néerlandais pour sa nette victoire et il a souligné que ceci était un vote pour l'Europe contre les extrémistes.
Voilà, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Et pour Marine Le Pen, eh ben, c'est une bonne nouvelle aussi.
Enfin, moi, j'ai pas de déception particulière. J'aurais été déçu s'il avait stagné ou s'il avait baissé. Mais encore une fois, en l'occurrence, il augmente et surtout, le parti au pouvoir chute extrêmement lourdement.
Voilà, c'est l'école des fans des populistes, un petit peu tout le monde a gagné. Alors justement, Laurent Bazin, est-ce qu'on peut faire une généralité justement chez les partis populistes? Il y a eu beaucoup d'articles aujourd'hui en disant « Ah, c'est un mauvais signe pour Marine Le Pen, la défaite de Geert Wilders ». Est-ce qu'on peut faire une généralité?
Bon, d'abord, il y a une montée des populismes d'une manière générale, que vous appelez populisme. Ils disent nationalisme, patriotisme, voilà. Dans les différents pays européens. Deux, c'est une défaite par rapport au sondage, mais c'est une victoire par rapport à la précédente législative. Donc... il faut bien reconnaître que ce qui se passe aux Pays-Bas aujourd'hui, c'est que Geert Wilders, il est installé dans le paysage et qu'il ne baisse pas, qu'il consolide plutôt sa position. Les Verts ont mangé le Parti travailliste, comme d'autres pourraient manger le Parti socialiste en France, peut-être Emmanuel Macron, on verra. La droite libérale a perdu des sièges de manière assez lourde, mais elle garde le pouvoir. À gros traits. Moi, je me suis amusé à regarder très brièvement ce qui se passait en Europe. En France, le FN était au-dessus des 40% dans deux grosses régions aux dernières régionales.
Sud-Est et Nord.
Geert Wilders s'est installé dans le paysage aux Pays-Bas. L'AFD est en embuscade en Allemagne. Les démocrates suédois, qui portent assez mal leur nom, sont plutôt en bonne position en Suède. Les vrais Finlandais, qui portent eux assez clairement leur nom, sont au gouvernement au Finlande. En Autriche, le FPE a raté d'un cheveu la présidentielle, vous en souvenez? C'est un écologiste qui a été élu. Jobbik en Hongrie presse fort, mais ils ont Orban en Hongrie. Donc d'une certaine manière, la droite forte d'Orban empêche les ultranationalistes de prendre la main dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Si on continue, et si on continue, vous trouvez en Slovaquie des roses bruns au pouvoir. Voilà.
C'est ça le pays. Forme de populisme avec le.
Oui, voilà, et les pays du sud de l'Europe sont moins concernés par ça, notamment le Portugal, l'Espagne, où ça ne prend pas, où ça prend mal. Et encore une fois, voilà. Donc je pense non qu'il faut pas tirer de généralité, mais qu'en revanche il y a une inquiétude générale qui est très différente justement, selon les pays, parce que les Pays-Bas, c'est un pays riche, c'est un pays qui fonctionne,
voilà,
qui va bien, et où malgré tout, le deuxième parti du pays, c'est Wilders, et donc c'est l'extrême droite.
Justement, Fatima El-Ouazdi, il y a une chose qu'a dit Geert Wilders, il dit peut-être que j'ai perdu ce soir, mais mes thèmes se sont imposés. J'ai été au centre du débat. Est-ce que c'est la même chose en France aujourd'hui avec le Front National?
Pour moi, la bataille des idées a complètement été gagnée par tous les partis populistes en Europe. On ne parle que de ce qu'ils décident. En fait, l'agenda politique est décidé par les partis populistes. On parle d'immigration, on parle de laïcité, on parle de réfugiés, on parle de ces thèmes tout le temps. Et quand on entend Marine Le Pen dire que oui, il a gagné, pour moi, oui, il a gagné, dans le sens où, clairement, dans un pays où il y a une bonne santé économique, les thèmes qui préoccupent le plus les Néerlandais, c'était l'immigration, c'était la laïcité, c'était la place de l'islam dans le pays.
Il n'y a
fait.
Pas de chômage,
alors,
hein,
alors
il y a très
pas de
peu problème, de chômage.
Alors qu'ils n'ont pas de problème économique. Donc, en France, on assiste peu ou prou à pareil, en fait, même situation. Les thèmes imposés, par exemple, de la laïcité, la question de l'islam, de l'islamisme, etc., dans la société, sont les thèmes qui préoccupent le plus les Français aujourd'hui.
Avec le chômage.
Avec la sécurité, le chômage. Mais est-ce qu'on parle... Enfin, je pose la question, une question ouverte. Est-ce qu'on parle plus de chômage ou est-ce qu'on parle plus d'immigration, d'islam, etc.? Je pense qu'on parle plus du deuxième.
Sophie Fay, est-ce que c'est ça aussi, finalement, aujourd'hui, on a l'impression, on se souvient, au moment de l'accueil des réfugiés en France, la France qui va accueillir, normalement, 60 000 personnes, ce qui n'est pas grand-chose. On se souvient que derrière, la discussion, c'était « mais vous vous rendez compte, si on en accueille davantage, ça va faire monter le Front National ». On a l'impression que dès qu'il y a un débat de société, derrière, il y a le Front National. C'est-à-dire que le thème, en effet, s'est imposé, c'est eux qui, aujourd'hui, fixent.
Ah mais tout à fait, on voit bien cette idée de clause Molière hein, qui est quand même apparue chez eux et qui maintenant se généralise un peu partout, ça choque plus personne. Et puis on voit des choses incroyables. Je me souviens d'une petite phrase dans le journal du dimanche où on interrogeait une électrice FN et qui disait à propos des fonctionnaires, c'est la race que je déteste le plus après les Arabes. La phrase, elle était dans l'article, c'était pas le titre de l'article. On laisse ces choses passer comme des anecdote, alors que c'est quand même insupportable.
On les relate aussi, c'est normal.
Je suis d'accord avec vous, Henri, on les relate, mais autrefois, il y a quelques années, on en aurait fait le titre, ça nous aurait choqué, et là, c'est dans le cœur d'un article, et ça passe comme ça. C'est incroyable ce qui s'est passé. Non, moi, ce que je trouve très intéressant aux Pays-Bas, et dans la lignée de ce qui s'était passé après le Brexit ou après Trump, c'est que vous avez les gens qui ont le sentiment d'être délaissés par le système, d'être les laissés pour compte de la mondialisation, et la question, c'est est-ce que ces gens sont majoritaires ou pas dans les opinions, et est-ce qu'ils font basculer les partis de gouvernement, est-ce qu'ils font basculer les organisations européennes et tout ça, ou pas.
Ce qu'on a vu, sont pas délaissés économiquement par le système.
Non, mais ils se sentent quand même laissés pour compte pour des raisons d'islam, pour des raisons culturelles. Ils ne veulent pas du monde dans lequel on est aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, est-ce qu'ils sont en capacité de gouverner ou pas? Et là, quand même, les gens sont allés voter, ils se sont mobilisés pour dire non, nous, c'est pas ça. Notre pays, c'est pas ça.
Certes, il y a la banalisation de la parole populiste, mais après, il y a aussi quelque chose qui est important à comprendre dans les systèmes politiques européens, c'est que les modes de scrutin ne sont pas faits pour qu'un parti populiste arrive au pouvoir et qu'il puisse gouverner. Donc, à la fin, on aura toujours une coalition contre les partis populistes.
Ça dépend où, hein,
aux Pays-Bas. Ça dépend, pas forcément aux Pays-Bas, mais par exemple, je pense surtout à la France. Je pense
que la France est une exception de ce côté-là, parce qu'elle est la seule à avoir le verrou majoritaire
du scrutin. Pour moi, c'est clairement la barrière à la réussite en fait du populisme en France.
Henri Vernet, pour vous, aujourd'hui, quand on a dit, voilà, ce matin, ah bah finalement, ça n'a pas gagné. Coup d'arrêt, finalement, à la vague populiste.
Non, je ne le crois pas une seconde. Alors, d'abord, le point commun dans tous les populistes que vous avez relevé, Laurent Bazin, il y a l'europhobie aussi. Il y a ce rejet de l'Europe. Il y a bien sûr la xénophobie et l'islamophobie qui ont marché au premier chef aux Pays-Bas. Mais ça, c'est d'ailleurs le premier, Pim Fortuyn, il y a une dizaine d'années, celui qui a été assassiné, avait déjà prospéré là-dessus, sur en gros, c'est notre mode de vie nous néerlandais. Paradoxalement, d'ailleurs, dans les aspects qu'on trouvait les plus moderne aux Pays-Bas, c'est-à-dire c'est un pays où les policiers ont les cheveux longs où on vend de l'herbe, etc. Et donc c'était justement ça qu'un leader d'extrême droite à l'époque défendait en quelque sorte aux Pays-Bas. Donc c'est le côté atteinte à l'identité nationale. Il a été le premier à prospérer sur ces thèmes-là, cette extrême droite. Bon. Mais sinon, en général, c'est l'europhobie, c'est le rejet de l'Europe. Et ça, c'est ce qui marche beaucoup en France. On voit que, en effet, les thèses de Le Pen se font beaucoup là-dessus. Il faut voir aussi que ce parti d'extrême droite, donc Wilders, c'était beaucoup moins structuré, beaucoup moins implanté, beaucoup moins organisé que Marine Le Pen.
C'est
un homme, c'est un solitaire qui en plus, je veux dire, n'est pas visiblement pas le meilleur pour faire campagne, qui est presque.
Il a refusé les débats.
Il fait rien, il est extrêmement provocateur, il sort des énormités auxquelles justement Marine Le Pen fait plutôt attention maintenant. Bref, ça veut dire tout, sauf que Marine Le Pen risque de subir le même sort.
Voilà, justement. On va en parler de ça. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Il s'agit visiblement de l'acte fou d'un jeune homme fragile et fasciné par les armes à feu. La déclaration de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, à la mi-journée au lycée Tocqueville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Un jeune de 17 ans, lourdement armé, a blessé 4 personnes par des coups de feu. 4 personnes dans le proviseur. 10 lycéens, eux, sont soit choqués, soit blessés. Selon la procureure, il n'y a aucun lien avec une entreprise terroriste. Une employée du FMI à Paris, légèrement blessée, elle, ce midi, après l'explosion d'un colis piégé. C'était dans le 16e arrondissement. D'après la police à Athènes, des anarchistes grecs seraient derrière cette attaque. Des résidus de timbres grecs ont été retrouvés sur le courrier. L'affaire des costumes de François Fillon, le parquet national financier accorde un réquisitoire supplétif contre X pour trafic d'influence sur ses vêtements de marque du candidat de la droite. Le journal du dimanche révélait qu'un riche ami de François Fillon lui avait offert depuis 2012 des vêtements haut de gamme pour près de 48 500 euros, dont 35 000 réglés en espèces. Un plan de 220 millions d'euros de l'État pour accompagner la fermeture de Whirlpool à Amiens. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve l'a détaillé aujourd'hui, notamment l'aide à apporter aux salariés. Whirlpool arrêtera la production de sèche-linge en 2018. Et puis les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa. Dans quelques instants, l'Olympique lyonnais cherchera une seconde victoire face aux footballeurs de Rome après une belle victoire à l'aller 4-2. C'est à vivre sur France Info.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Encore une petite question à propos de ces élections en Hollande. Alors c'est vrai que d'habitude on parle rarement des processus électoraux aux Pays-Bas, mais là nous en parlons parce que forcément le parti d'extrême droite de Geert Wilders était à un moment pressenti comme pouvant remporter cette élection. Aujourd'hui on sait qu'il est tout de même deuxième avec davantage de sièges, mais ça nous amène quand même à une question. Laurent Bazin, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure avec pour qui faut-il voter ou pas au second tour selon des architectures politiques. On a entendu à propos d'Emmanuel Macron, notamment Bertrand Delanoë, Manuel Valls, qui parle de nouveau de vote utile. Vous savez, c'est le retour du vote utile. Oui. Ça veut dire que, ce vote utile, il y a un moment, est-ce que ça ne tue pas le débat politique aussi?
Mais le vote utile, ça a complètement siphonné l'agitation d'idées, quoi. On n'agite plus d'idées, là. Et même dans le processus politique, pourquoi on a fait des primaires? On a fait des primaires depuis que le Front National est en situation d'être au second tour de la présidentielle parce qu'on s'est dit on ne peut plus avoir 7 candidats à gauche, 7 candidats à droite et puis on se débrouillera bien au second tour parce que voilà. Et puis aussi parce que les partis n'arrivent plus à porter des gens qui sont suffisamment puissants. Donc est-ce que le vote utile tue le débat? Oui. L'autre jour j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose de très juste. C'était quelqu'un qui a une trentaine d'années qui m'a dit c'est incroyable, 35 ans, qui m'a dit c'est incroyable, je n'ai jamais voté sans qu'on me dise attention pour qui tu votes, attention à ce que tu vas faire parce qu'il y a Marine Le Pen. Donc ça conditionne absolument tous les compartiments les compartiments du débat. Oui, c'est absolument juste.
Sophie Fay.
Alors je suis pas tout à fait d'accord parce que cette fois-ci, le vote utile, les gens en ont ras-le-bol justement, et que celui qui bénéficiera du vote utile, il aura intérêt à tendre la main aux électeurs pour qu'ils se déplacent et qu'ils ne partent pas à la pêche.
On disait ça, on se souvient avec Jacques Chirac déjà.
Justement, et finalement... mais c'est pour ça qu'on risque d'avoir un taux d'abstention vraiment dangereux et qu'il faudra
37%
donner des signes. Il faudra tenir compte du débat d'idées qu'il y aura eu, des quelques idées qui seront sorties. Il faudra tenir compte des personnes, il faudra faire un geste. Sinon, on entre dans une zone, à mon avis, de grand danger, parce qu'on connaît tous autour de nous des gens qui nous disent matin, midi et soir, je n'irai pas voter, je m'abstiendrai.
Fatima El Wazdi, pour vous, ce vote utile, après quand on parle de Front Républicain, est-ce qu'aujourd'hui ça a un sens encore et au niveau de l'idée, est-ce qu'il ne faut pas à un moment un combat d'idées aussi?
La limite du vote utile, elle se traduira, je pense, aux législatives, puisque certes, il y aura un président de la République ou une présidente de la République, mais est-ce qu'elle aura il ou elle aura la capacité en fait de gouverner. Donc les idées, certes, on va peut-être pas voter pour les idées, on va peut-être voter contre quelqu'un, mais quand on va voter aux législatives, on votera pour des idées. Et si le président ou la présidente de la République est incapable de gouverner concrètement, on arrive au terme de la Ve République à cause des primaires, à cause de la logique partisane et à cause de l'échec du débat d'idées en France.
Henri Vernet, pour vous aujourd'hui, on le voit, hein, Bertrand Delanoë, lui, il a clairement dit, moi je ne choisis pas Benoît Hamon parce que je veux faire barrage à Marine Le Pen.
Oui, mais ça c'est la meilleure façon, en effet, de tuer Benoît Hamon, il n'est pas le seul. Hein. C'est ce que dit Cazeneuve, c'est ce que dit Hollande en sous-main. Je veux dire, en tout cas, c'est ce qui est rapporté dans les journaux. C'est ce que dit Valls, c'est qu'il le dira encore plus fort, encore une fois, dans quelques jours à coup sûr. Bref, ils disent tout ça, mais le résultat, c'est quoi? Il y a deux effets pervers possibles. Hein. Le premier, c'est que ça revient d'une certaine manière un petit peu en faisant la cible de tous. C'est tous contre Le Pen, donc ça revient à cette fameuse diabolisation. Ça ne marche plus. Il n'y a rien de tel pour ressouder. Finalement pour reconvaincre un camp, parce que ça revient à dire que finalement tous les autres ça se vaut. Oui. En gros le vote utile c'est de LR finalement jusqu'à peut-être pas jusqu'à Artaud, mais en gros tout l'arc républicain disons, tout le monde se vaut, l'essentiel c'est de battre Le Pen. Donc effet pervers premier. Le deuxième donc c'est que, alors est-ce que c'est pervers ou pas, ou est-ce que au contraire c'est voulu, c'est que Hollande, Cazeneuve, Valls et Delanoë, ils sont en train de tuer Hamon. Parce que le vote utile du coup pour la gauche ça devient qui? Ça devient Macron qui est un peu mieux placé. Alors certes c'est pas la gauche, c'est la gauche. Alors peut-être.
La difficulté c'est quand on devient le réceptacle de tous les votes utiles, on devient un attrape-bouche. Et les électeurs se disent, oulala, si tout le monde veut lui, on entend que lui dans les médias, vous connaissez la fameuse histoire de Radio Macron, Télé Macron, etc. Macronite des journalistes. Bon, très bien. Donc, les électeurs, au bout du compte, il faut retenir une chose. C'est ce qui nous démontre depuis 3, 4 ans, 5 ans.
Ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi
c'est
faire.
D'abord, ils n'aiment pas les paroles verticales. Et deuxièmement, au bout du compte, ils feront leur choix tout seuls. Voilà. Quels que soient les sondages, quels que soient les avis des journalistes, quels que soient les avis des commentateurs, et j'en ai terminé.
Exactement,
là.
Ça va se terminer. Et on a réussi à faire une émission sans parler de François Fillon. Voilà, c'est incroyable. Je la note, cette émission, d'ailleurs, parce que c'est la première fois. Et oui, c'est incroyable.
Merci. Le CSA va vous aimer. Aujourd'hui.
Merci beaucoup, Laurent Bazin, d'être passé ce soir. Merci, Fatima Loisdi, d'être passé également. La une de l'Obs cette semaine, Sophie Fay.
Si Le Pen était élu, le scénario noir, parce que même si la diabolisation ne fonctionne plus, il ne faut pas tomber dans la banalisation, il faut quand même s'intéresser à ce que ça donnerait.
Donc le vote utile.
Henri Vernet, la ligne du Parisien aujourd'hui en France demain.
Terreur au lycée, on revient évidemment sur les événements de Grasse.